ça que je suis en fait revenu sur ce genre très particulier. Maintenant, en tant que lecteur, c'est un genre qui m'a toujours passionné. J'ai lu très tôt de la science-fiction, en particulier du space opéra. Et comme beaucoup d'auteurs aujourd'hui, moi je fais partie de la première génération de Star Wars, donc je suis rentré dedans tout petit. Et j'ai encore cette image-là qui me reste, en fait, cette espèce de rêve, cet espace sans limite, en fait, de l'imaginaire, et qui me transporte encore aujourd'hui.
Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre très brève biographie sur le site des Imaginales, c'est la difficulté que vous avez eue à publier, à commencer à publier. Ces difficultés sont manifestées comment,
En fait, j'aimais des auteurs comme Tom Clancy, j'aime bien l'anticipation. En fait, la science-fiction a beaucoup de versions différentes, mais moi j'aime l'anticipation proche. Et en tant qu'auteur, je me sentais beaucoup plus proche de cette version-là, en fait, de la science-fiction, de cette branche. Et moi, j'aime les auteurs comme Tom Clancy, qui traite énormément de jeux politiques. Donc, je me suis très tôt intéressé à des auteurs comme Frank Herbert, pour sa vision dans Dune, qui est quand même quelque chose de pratiquement inégalé. Enfin, moi, j'ai jamais rien trouvé d'équivalent dans la littérature. Et en fait, voilà, j'avais cette ambition complètement un peu surréaliste d'essayer d'approcher ce genre d'univers. Et le gros problème, c'est que si vous placez si vous essayez de traiter de la géopolitique dans un espace-temps assez proche, donc mettons les 100 prochaines années, c'est un domaine qui n'intéresse absolument personne. Aucun éditeur, aucun... et tout bien réfléchi aujourd'hui, je me demande même si ça intéresse les lecteurs. Donc je me suis entêté pendant 20 ans à essayer de percer dans cette voie. Mon premier roman, j'ai mis 8 ans à l'écrire. Et un éditeur m'a dit il y a 5 ans que, en fait, quand il reçoit des manuscrits de cette taille-là, ça part direct à la poubelle, quoi. Donc ça fait plaisir quand on voit que c'est 8 ans de travail, en sachant que justement, quand vous êtes dans l'anticipation à court terme, ça nécessite toujours énormément de recherches parallèles dont on n'a pas du tout à s'encombrer dans le space opéra. Donc cette masse de travail-là, c'est un travail que j'ai fait une fois sur ce roman-là et que j'ai recommencé par la suite pour d'autres échantillons de romans, mais sans jamais avoir le moindre écho du moindre éditeur. Voilà.
Merci. À l'inverse, alors, il y a des auteurs ici qui ont, semble-t-il, pas eu de problème avec des éditeurs, je veux dire, pour publier. On a Heyerdahl ou Alain Grousset qui ont publié énormément. Alain Grousset, je rappelle pour mémoire que son premier récit, La Citadelle du Vertige, a dépassé les 300 000 exemplaires vendus, ce qui est quand même colossal. Et la particularité d'Alain Grousset, c'est d'avoir souvent écrit aussi en co-auteur avec d'autres personnes, notamment Daniel Martin-Eagle. Comment peut-on publier autant de livres, semble-t-il, par rapport à un jeune auteur qui a eu des difficultés à publier? Est-ce que vous avez eu des difficultés aussi au début de votre carrière?
Non. Mais bon, un peu plus vieux quand même, donc le contexte économique n'était pas forcément le même. Non, moi j'ai pas eu de choses, mais c'est un peu une chance aussi, c'est parce que j'ai eu un prix avant d'être publié. Puisque à l'époque il y avait un prix qui s'appelait le prix du ministère de la Jeunesse et des Sports, où on concourait sur manuscrits. Donc il y avait à peu près 300-400 personnes qui envoyaient des manuscrits. Et j'ai envoyé mon premier manuscrit et j'étais le lauréat. Ce qui fait que ce n'est pas vous qui allez voir les éditeurs, c'est les éditeurs qui viennent vous voir. Parce que ce prix-là était prestigieux. Donc j'ai commencé à toucher du pognon avant d'être publié. Puisque le prix était doté aussi. Donc à l'époque c'était pas mal. Donc tout ça, tout va bien, mais après ça se passe un peu plus dur pour le deuxième, parce qu'on a un peu plus d'angoisse, quoi. Mais bon, c'est vrai que le contexte à l'époque était différent. Lorsque j'ai été publié donc chez Hachette, le directeur collection a dit « Bon, comme c'est votre premier roman, on va y aller tout doucement, hein, quand même. On va le publier qu'à 16 000 exemplaires, parce que ça va, on ne sait pas sinon c'était 20-25 000 pour les auteurs. » Donc il y avait un autre contexte que ça. Bon, en plus, j'écris pour la jeunesse, il y avait le côté institutionnel qui faisait que les livres, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai atteint les 300 000, c'est parce que ça a été publié, étudié dans les classes en permanence, et ça l'est encore. Donc voilà, c'est l'intérêt d'écrire pour la jeunesse. C'est pas vos livres qui vieillissent, ce sont vos lecteurs. Chaque année, ils sont remplacés par une nouvelle génération. Donc voilà, c'est l'intérêt d'un.
Merci. Et puis alors, je revois aussi la question à Yerdal, parce que c'est dans les années 90 que vous avez eu des difficultés à trouver un éditeur, et puis alors c'est dans les années 90 que Yerdal a éclaté.
Oui, bah, je suis comme Alain, je suis désolé. J'ai toujours une chance absolument innommable, donc bah, ça s'est bien passé tout de suite. Je ne sais pas quoi dire de plus, la situation était complètement différente. Les directeurs de collection étaient encore indépendants du système économique de gestion des maisons d'édition, chose qui change à la fin des années 90 et qui va tuer la SF au tout début des années 2000, quand les grands groupes décident d'augmenter petit à petit la rentabilité exigée d'abord sur une collection. Quand on demande une rentabilité de 15% sur une collection, c'est encore jouable, même si c'est difficile, il suffit de se débarrasser de quelques auteurs. Mais quand on demande 15% de rentabilité au titre, alors là, ça devient impossible. Et c'est ce qui a fait disparaître les collections de SF d'une façon générale. Parce que jusque-là, la science-fiction était le genre, pour cause de public captif, vous allez savoir maintenant que vous êtes tous des captifs quand vous aimez un domaine, il y avait des chiffres en dessous desquels on ne descendait jamais. En dessous de 10 000 exemplaires, ça n'existait pas. Voilà. Et donc 10 000 exemplaires pour un auteur, même si son espoir de dépasser les 10 000 était, on va dire, un petit peu optimiste, mais c'était déjà bien, et pour un directeur de collection, c'était très bien. Quand après il fallait passer à 25 000 ou à 30 000 pour pouvoir rentabiliser un bouquin en fonction de critères marketing et de critères économiques, ça devenait plus possible, la SF n'avait plus de raison d'être, donc on s'en est débarrassé au profit d'autres littératures de l'imaginaire ensemble, que ce soit la fantasy, la petite aujourd'hui, et au profit aussi d'un certain nombre de textes que je dirais transgenres, qui mêlent à la fois des fictions contemporaines avec des aspects utopistes ou légèrement fictifs ou dans le sens science fictive, fantastique, etc. Voilà. Donc, en fait, cette bascule qui s'est faite dans les années 90, on ne l'avait même pas anticipé, puisque le début des années 90, c'est un espèce de renouveau. Pendant les années 80, la science-fiction a énormément souffert. Elle a perdu, grosso modo, tiens, au Fleuve Noir, la collection Anticipation, on tirait à 30 000 exemplaires dans les années 70. À la fin des années 80, on tirait plus qu'à 5 000. Il y a un petit problème là. Donc début des années 90, ça redémarre. On sent les médias qui jusqu'à maintenant nous considéraient comme des littératures de gare, quoi, à s'intéresser un petit peu à ce qu'on faisait. Tout va démarrer et puis là, plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais citer? Rizzoli rachète Flammarion. Flammarion, c'est j'ai lu SF. C'était la première collection de SF vraiment. En matière de chiffres, puisque déjà à l'époque, l'autre grosse collection vendeuse, c'était Press Pocket, ne vendait quasiment plus que de la fantaisie. T'es tombé dans le trou économique.
Alors justement, par rapport au titre du sujet, la science-fiction, c'est rien que du bonheur, on peut se poser la question, pourquoi continuer à écrire de la science-fiction alors qu'il y a d'autres littératures? Enfin, ça se diversifie tellement. Qu'est-ce qui fait que Alain Grousset continue à écrire de la science-fiction?
Alain Grousset continue à écrire de la science-fiction parce qu'il sait faire que ça, en fait. Et puis il y a que ça qui l'intéresse. Oui, je pense que de toute façon, on est assez peu. Je reprends encore mon exemple de la jeunesse. Il y a donc Daniel Martinicole, Christian Grenier, Lambert. Enfin, bon, il y en a d'autres qui sont satellites, qui écrivent à la fois pour des adultes et puis pour les enfants, comme Eugénie, par exemple. Donc on est assez peu. Pourquoi changer quelque chose que l'on aime? Et moi, j'ai toujours envie de faire connaître cette littérature aux plus jeunes. Alors, allez, 9 fois sur 10, je rentre dans une classe, je dis quels sont ceux qui n'aiment pas la science-fiction? Alors, il y en a plein qui le voient. Et je dis, vous avez vu Avatar? Ah oui, monsieur, ça, c'était génial. Ça. Et donc, après, tout mon boulot est d'expliquer que s'ils ont aimé Avatar, pourquoi ils aiment Avatar. Donc ce qu'ils n'aiment pas, c'est lire, en fait. Ouais. C'est le papier, la version papier. Alors après, je pense qu'on peut expliquer pourquoi aussi il y a une désaffection en ce moment, peut-être de la science-fiction pure et dure. Je pense que la science-fiction, elle suit l'économie, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque ça va très très bien, point de vue économique, de point de vue social. Premièrement, on voit des soucoupes volantes. Ça, c'est Bertrand Méheu, qui est un spécialiste des soucoupes volantes, qui a fait cette courbe entre la courbe économique et le nombre de visions. Ça suffit exactement. C'est-à-dire que quand tout va bien, on regarde en haut, en l'air. Et quand ça ne va pas, on regarde ses pieds. La science-fiction, c'est pareil. Ça va mal. Économiquement, c'est dur. Bon, tiens, pour me changer les idées, je vais prendre un livre de science-fiction qui va raconter un futur assez dystopique. Pour changer les idées, j'ai changé les idées. Donc voilà, je pense que c'est ça. Alors que la fantasy, par exemple, joue sur des mêmes codes, c'est-à-dire la code ailleurs, une autre technologie, enfin un autre endroit, une autre planète. Et mais il n'y a pas ce côté que l'on peut retrouver dans la science-fiction qui va essayer d'ouvrir des voies de notre futur assez proche, comme disait notre ami Olivier. Et là, en ce moment, je pense qu'on lutte contre ce phénomène. Tout va pas bien maintenant, et les auteurs de science-fiction montrent que ça va pas aller bien après. Donc, quel intérêt de dépenser du fric pour acheter un bouquin dont je sais pertinemment ça va déjà aller mal. Je pense que c'est le cœur du problème.
Alors, Olivier de Paris, votre livre est un space opéra. Je malheureusement pas eu le temps de le lire, mais est-ce qu'il se termine bien ou est-ce qu'il se termine mal? Alors, je veux dire, on va pas parler de la fin, mais est-ce qu'il présente un futur heureux ou un futur difficile?
C'est vrai que j'ai souvent une tendance à finir mes manuscrits très mal, en fait. Mais dans l'idée, en fait, que pour moi, la littérature, c'est comme la vie. Donc, dans la vie, c'est très, très rare quand même que les histoires se terminent bien. Donc, si on veut quand même avoir un minimum de fidélité, je pense qu'il faut quand même moduler un petit peu les fins. Dans ce roman-ci, par contre, je suis d'un optimisme assez... que j'ai jamais eu dans aucun de mes romans. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment plutôt de m'amuser. J'ai vu le space opéra, j'ai essayé de le voir avec le même regard que j'avais quand j'étais enfant. Et ce que ça m'apportait, c'est vrai que je parlais de Star Wars tout à l'heure. On en garde vraiment une très très bonne, une bonne sensation quand on sort d'un film comme ça. On est heureux, quoi. Moi, c'est ce que j'ai vécu à l'époque, donc avec mon regard d'enfant. Mais donc aujourd'hui, j'ai essayé de mettre des choses plus complexes, non, parce que beaucoup de gens considèrent Star Wars comme une œuvre mineure, alors qu'il y a quand même des choses à l'intérieur qui devraient faire pâlir beaucoup de scénaristes ou d'auteurs. Voilà, moi j'ai vraiment essayé de m'amuser, en fait. Donc la fin est dans cette optique là, en fait. Je voulais surtout pas plomber le lecteur à la fin du roman. Et les lecteurs me demandent assez fréquemment quand même s'il y a une suite de prévu à ce roman. Donc voilà, parce que justement les personnages je pense l'auront plus, et surtout je pense que c'est dû à cet optimisme.
Alors, ça semble confirmer ce que disait Alain Grousset tout à l'heure. Quand les choses vont mal, on va écrire plutôt de manière positive ou optimiste. Je voudrais poser la question à Yordal, parce que ici, donc, on voit que Olivier de Paris fait un récit où l'aventure prime. Chez Yordal, c'est plutôt... dans une autre tonalité, la science-fiction. Ce sont des récits plutôt engagés, en tout cas transparence, résurgence. La tonalité de la science-fiction chez Yordal, c'est un combat, c'est de l'aventure, du délassement.
D'abord, j'écris parce que je ne sais pas parler, donc ça résume très. Si je savais parler, je serais un politicien. Vous n'y gagneriez pas au change. Donc j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire sur le monde tel que je connais, et j'ai des choses à dire à mes contemporains. Je me suis pendant longtemps servi de la métaphore science-fictive pour dire ces choses. Et puis je ne l'ai plus fait depuis 12 ans. Donc je suis vraiment très très mal placé pour parler de la science-fiction sérieuse du Nord, parce que j'ai abandonné ça il y a une douzaine d'années. Et que je ne sais pas quand j'y reviendrai. Ça sera par envie, mais probablement quand je boufferai bien par ailleurs. la science-fiction, enfin, c'est intéressant de classer comme auteur engagé. En fait, tous les auteurs sont engagés, mais ils ne le savent pas. Quelqu'un qui ne dit rien, qui ne s'exprime pas contre le monde actuel, l'accepte tel qu'il est. Donc c'est une forme d'engagement la plus pernicieuse qui soit, puisque c'est être passif, accepter le monde merveilleux et extraordinaire dans lequel nous vivons. Voilà. Donc être engagé, ça veut dire être de gauche, déjà. Je vous dis un truc, hein. C'est au moins de gauche, les tendances extrêmes. On ne dit pas d'un auteur Front National qu'il est engagé. Ça ne gagnerait pas à l'idée. Hein. Non. L'un d'entre vous ? Non. Voilà. Donc voilà. En fait, je fais de la littérature d'extrême gauche, tendance anarch. Je ne fais pas de littérature engagée. Je décris le monde et j'exprime des opinions sur ce monde qui passent à travers mon propre filtre d'interprétation politique, sociologique, philosophique, etc. Je ne suis pas un auteur engagé plus que d'autres. Il y a en Suisse un auteur engagé qui ne sait pas qu'il est engagé, il s'appelle Georges Ponchard. Il écrit des textes magnifiques, mais je crois qu'idéologiquement nous sommes à l'antithèse l'un de l'autre, il me semble. Je vous recommande néanmoins de lire ces deux romans chez Robert Laffont à la collection Ailleurs et Demain, parce que c'est un auteur extraordinaire et c'est pas parce que je partage pas ses opinions qu'il écrit beaucoup mieux que moi.
Alain Grousset, lorsqu'on écrit pour la jeunesse, on a des messages à faire passer aussi.
Dès qu'on écrit, on fait passer des messages. On fait passer deux sortes de messages. Des messages intentionnels. Tiens, je vais traiter de l'écologie, traiter de la surpopulation, enfin, etc., etc. Et puis après, il y a des autres messages qui passent, c'est-à-dire inconsciemment, dans sa façon de voir le monde. Et là, ce genre de messages, ils passent à chaque... toujours les mêmes à chaque livre. Lorsque j'ai écrit mon second roman, j'ai mis le mot fin, j'ai dit mais je viens d'écrire le même livre, enfin c'est pas du tout la même histoire, mais donc j'ai téléphoné à un auteur qui s'appelle Christian Vonnier, et puis je lui ai dit écoute, est-ce qu'on passe sa vie, puisque c'est mon second livre, à écrire toujours le même livre. Il m'a dit oui, t'inquiète pas, toute ta vie tu vas passer à écrire toujours le même livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà de l'histoire, nos valeurs, les valeurs qui sont officielles, passent inconsciemment à travers les héros, à travers les situations. Voilà, les deux sortes de messages. Alors, les jeunes sont assez réceptifs, effectivement, et puis, bon, c'est eux, le futur leur appartient. Hein. Donc, c'est peut-être à eux qu'il faut poser les bonnes bases, puisque ce monde tel qu'on vit, à mon avis, eux, ils ne le connaîtront pas à la fin, il aura largement changé à leur fin de leur vie, par la force des choses, peut-être, ou volontairement. Ils aiment bien, mais ça demande une certaine explication quand même dans les classes.
Mais si on écrit toujours le premier, même livre quand on est seul, quand on est en duo, on est obligé de faire avec les valeurs de l'autre aussi.
Oui, ben là on a écrit. Moi j'adore écrire avec d'autres gens. Effectivement, souvent j'écris avec des femmes. C'est pas un travail à égalité, c'est un travail de complémentarité. Souvent avec Daniel. Moi, je m'occupe de la bouffe et des bagarres, et elle s'occupe des sentiments. Donc, elle est. Parce qu'une fille est beaucoup plus enclin à écrire ce genre de choses. Donc, du coup, j'aime bien parce qu'elle donne effectivement un côté féminin à l'histoire. Et comme la science-fiction a cette image qui lui colle au basket, que c'est une littérature beaucoup plus estimée aux garçons qu'aux filles, le fait d'écrire effectivement avec une auteure fait que, bon, à l'intérieur du texte, il y a une part de féminité qui va passer et qui va plaire au public féminin. Donc ça m'intéresse. Donc après, ben voilà, j'allais dire, c'est une belle histoire d'amour à chaque fois, parce que il faut accepter que l'autre lise ce que vous avez écrit et accepter qu'il rentre dans ce que vous avez écrit, il change des choses, et puis après rajoute sa sauce aussi. Voilà. Alors ça marche bien, ça marche très très bien, parce que lorsqu'on est tous les deux déstructurants. Hein, les auteurs, il y a deux sortes d'auteurs, les structurants et les littératurants. Les structurants, c'est bon, mec comme moi, j'ai besoin de tout savoir avant de commencer. Moi, je sais comment ça va se terminer, je sais ce que va faire chaque personnage. J'ai une bible totale. Je me démarque lorsque tout ça est fait. Et puis, il y a le littératurant qui, lui, s'assoit devant son ordinateur, et d'un seul coup, l'histoire lui arrive dessus, coule dessus. Alors, lorsqu'on travaille avec un autre structurant, c'est le cas de souvent avec Daniel Martignol, il n'y a aucun problème, parce qu'une fois qu'on avait vraiment ce plan, cette structure, et qu'on est descendu en profondeur dans chaque personnage, souvent je dis, bah tiens, je vais faire le chapitre 1, et puis le 4, le 5, le 6, parce que ça me plaît bien, puis le 8, et puis si tu veux faire les autres, oui, on peut se mélanger comme ça. Et puis j'ai écrit un autre roman avec une auteure qui s'appelle Suzy Morgenstern, qui était auteure de jeunesse à l'école des loisirs, qui elle est une littératurante. Et là, ça a été dur quand même. Mm-hmm. On y arrivait, mais c'était dur pour moi. Parce que j'écrivais mon chapitre et puis je lui envoyais 5 pages d'explication sur son chapitre. Elle me disait, ok, américaine, no problem, no problem, ok. Et je recevais son chapitre, mais alors rien, je dis bien rien, pas un truc de ce que je lui avais dit qui allait se passer, ne se passait dans son chapitre. Donc moi, panique pour moi, il fallait que je réinvente toute mon histoire dans ma tête pour pouvoir écrire mon chapitre. C'était ça jusqu'à la fin. Bon, voilà. Mais ça marche. Mais c'est dur.
Une question plus générale, qu'est-ce que la science-fiction permet d'exprimer que ne permet pas d'autres types de littérature ? Est-ce que quelqu'un a une réponse ou...
J'ai tellement de réponses que ça fait peur. Je vous conseille de lire la préface que j'ai faite, que j'ai écrite dans Genèse, parce que si je me mets à parler, on va en avoir pour un certain temps. Donc je crois que c'est à peu près résumé là. Je pense que... Je vais essayer de résumer quand même, parce que j'ai écrit en plein de pages. La science-fiction est un formidable outil pédagogique, toute science incluse, c'est-à-dire que ça, qu'elle concerne les sciences dites exactes ou les sciences dites humaines. De toute façon, on essaye d'être le plus crédible possible. Pour les non-connaisseurs de science-fiction, le mot science est le plus important. On n'invente pas n'importe quoi, on essaye que ça tienne la route. Que ça résonne au présent autant que dans l'imaginaire scientifique qu'on peut avoir. Donc il y a cet aspect. Moi je privilégie davantage les sciences humaines que les sciences dites exactes, parce que les sciences dites exactes c'est ce que je préfère lire, donc j'ai besoin de restituer autre chose, et puis aussi parce que mon engagement dont on parlait tout à l'heure, je crois un petit peu. Il y a un deuxième truc, c'est un véhicule idéologique qui est formidable. Puisqu'on se sert, la science-fiction, d'une façon générale, est un des domaines des littératures de l'aventure. C'est une nouvelle aventure à chaque fois. Mais parce qu'on met en scène des sociétés complètes, parce qu'on met en scène des sociétés différentes, on peut exprimer de façon directe ou de façon extrêmement sournoise, ça c'est mon cas, je suis extrêmement sournois dans le direct, des trucs qui échappent. Peut-être au lecteur par l'intermédiaire de TF1 ou M6, par exemple. C'est une idée que j'ai comme ça. Voilà, donc c'est un véhicule idéologique, c'est un outil pédagogique. Et puis, éventuellement, c'est la seule littérature qui a succédé au rôle que les philosophes se donnaient jusque, on va dire, la fin des années 20. Voilà, je vais dire les années 20. Hein. On a réellement pris, les auteurs de science-fiction ont réellement pris en charge le devoir de réfléchir l'humanité dans ce qu'elle était et dans la projection de ce qu'elle pouvait être. Il n'y a aucun autre domaine littéraire qui le fait. Et quand Michel Houellebecq le fait à la fin d'un de ses bouquins ou sur tout un roman, il écrit de la science-fiction. Voilà.
Oui, je crois qu'il y avait une étude faite au Canada là-dessus. Lorsque vous écrivez un récit au présent, ici, aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez un homme ou une femme, enfin bon, je vois. Le lieu de votre récit va être sur la Terre, le récit va être au présent, voire peut-être un petit peu de passé pour des flashbacks. Et tout ça, c'est lorsqu'on mélange tout ça, je crois qu'il y a 700 et quelques façons narratives de faire ce récit. Et donc ce chercheur canadien, lui, s'est amusé à regarder un peu la science-fiction. Donc là, au-delà de l'homme et la femme, il peut y avoir le robot, il peut y avoir l'extraterrestre dans toute sa splendeur, les lieux, et bien que le cosmos nous est ouvert, on peut passer au futur et tout. Et là, il y a 42 210 façons narratives de faire un récit. Donc, ce que ça veut dire, bon, au-delà de l'anecdote, c'est cette liberté de la science-fiction. Voilà. On est des dieux, on fait ce qu'on veut, on invente un monde, on met les gens qu'on veut, on met le système climatique que l'on veut. Donc tout un tas de souvent de contraintes, et après, une fois qu'on a mis qu'on a pris tous ces ingrédients, on s'amuse à faire un récit en mettant des gens dedans, des cobayes, et puis débrouillez-vous, voilà, comment vous vivez à travers ce monde. Et ça c'est fabuleux, quoi. Pour moi c'est l'imaginaire qui me plaît le plus.
C'est vrai qu'une fois qu'on s'affranchit des limites en fait du réel, on peut vraiment se concentrer en fait sur les personnages et sur le message, l'engagement qu'on veut faire passer en fait à l'intérieur de l'histoire. Moi, j'ai lu assez récemment Demain une oasis, d'Ayerdal, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense pas qu'il y en a beaucoup. Mais moi j'ai été surpris justement par cet engagement, parce que c'est un roman donc, qui date des années 90, à une époque où je pensais, moi, de ma position donc, d'auteur qui essayait d'accéder justement au statut d'auteur, je pensais que l'engagement n'intéressait plus du tout les éditeurs à cette époque-là. Et il y a eu quand même un éditeur qui a été assez courageux pour publier ce roman. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, le même roman intéressera encore un éditeur. Moi, j'aurais un doute. Mais très franchement, de lire ce roman, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que je me suis dit, voilà, c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps, que je croyais perdu pour la science-fiction, en fait, hein, la science-fiction française, parce que la science-fiction anglo-saxonne peut se permettre beaucoup plus de liberté que la nôtre. Moi, je croyais qu'on allait nous cantonner dans les 20 prochaines années, justement, au monde du space-opéra, à des que je ne renie pas du tout, mais en fait, qui nous éloigne tellement de la réalité en fait, on ne peut pas vraiment poser les vraies questions, on ne peut pas poser un véritable engagement, même si on essaye de le faire. Et voilà, donc en lisant ce roman, je me suis dit, bah, peut-être pas finalement, il y a peut-être encore une porte ouverte et ça fait du bien.
Oui, je crois que... Enfin, c'est marrant, j'ai une interprétation qui est extrêmement différente. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les portes se sont fermées pour la science-fiction type space opera. Alors c'est vrai qu'il y a un ou deux éditeurs qui sont redevenus demandeurs, mais depuis quelques années, ça devenait extrêmement difficile. Et les récits spéculatifs d'anticipation passaient un petit peu mieux. Alors là, je te parle depuis le début des années 2000. Mais c'est aussi dû à une volonté éditoriale chez les éditeurs jeunesse. Il y a eu un gros travail de fait sur l'anticipation, justement. On s'est un petit peu éloigné du science-fictif pur et dur, de la hard science, du space-op, de ce type d'histoire, pour se concentrer sur l'approche du contemporain par une proximité de date à 5 ans, 10 ans, voire même tout de suite, mais en décalant le présent. Et c'est tous ces éditeurs jeunesse, dont Alain fait partie, d'ailleurs je ne sais plus, je ne te suis plus au jour le jour, ont aidé ont permis au lecteur d'aborder une réflexion telle que toi tu l'as conduite, telle que j'ai pu la conduire dans Demain une oasis. J'ai un rat dans la gorge. Est-ce que quelqu'un peut me traiter un chat? Alors c'est un rat grave quand même. Et je ne m'étais pas posé la question en écrivant Demain une oasis. D'ailleurs, quand j'écris un bouquin, je ne me pose pas la question de savoir comment ça va être reçu, ni par les éditeurs, ni par les auteurs. Mais la surprise, ça a été non pas que ce bouquin soit publié, mais qu'il soit publié sans être lu. Ça va peut-être expliquer quelque chose. C'est bien parce qu'il n'y a personne de l'époque éditoriale chez Fleuve Noir. Le bouquin a été acheté, signé, publié, sans être lu ni corrigé. Donc je suis responsable de toutes les fautes d'orthographe, de syntaxe, de tout ce que vous voulez, de la première version de Demain une oasis. Et oui, c'est authentique. Donc c'est peut-être ce qui explique sa publication. Par contre, ça n'explique pas forcément le fait qu'on m'ait collé le prix de l'imaginaire sur ce bouquin. Et là, pour moi, la surprise, elle est là. À une période où écrire des anticipations engagées avait disparu depuis la fin des années 70, c'était assez étonnant de dire, tiens, ça a été bien reçu par des gens qui apprécient un certain nombre de bouquins dans l'année.
Vous que c'est pas un métier facile.
Je vous ai dit que si je savais parler, je serais parluseur. Ah non, c'est moi qui ai écrit parleur aussi. Qu'est-ce que j'étais en train de dire comme sottise? Oui, c'est... là pour moi, la surprise, elle s'est produite à ce moment-là, parce que je ne pensais pas qu'il y avait la place pour ce type de bouquin. Mais en fait, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'ai eu un grand coup de gueule, une grande colère qui suit des années et des années de relations avec les milieux qui sont racontés dans Demain une oasis, essentiellement donc le travail humanitaire. Et puis le coup de gueule, il est sorti, voilà, j'envoie ça à l'éditeur qui me dit ton bouquin est génial sans l'avoir lu, je le répète, le publie sans l'avoir corrigé, je le répète, et derrière un an après, je reçois un prix, mon premier en plus, le plus important à l'époque, c'était le grand prix de la science-fiction française, je n'ai pas eu le prix de l'imaginaire pour celui-là, mais le grand prix de la science-fiction française. Donc, et puis les lecteurs achètent, autre surprise, ce bouquin se vend. à une période où les bouquins ne se vendaient pas très bien. Voilà. Et puis, je crois que ce n'est pas important de se focaliser sur un domaine d'expression littéraire, particulièrement dans un genre aussi vaste que la science-fiction, ça ne sert à rien. Et on envoie ce qu'on a envoyé et puis on voit ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a plein d'éditeurs qui sont en train de réouvrir les portes aux auteurs de science-fiction. Toujours mon rat. Et personne ne m'a apporté de chambre, m'a apporté de la badoie, mais en fait, ça n'en est pas. Oui, Alain, prends le relais parce que je ne peux plus parler. Ouais.
Non, mais il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'effectivement, le domaine anglo-saxon, enfin, je crois, pour la jeunesse, maintenant, on va faire son marché à Francfort ou à Bologne. Et on suit la mode américaine, et là en ce moment, la mode américaine pour la science-fiction, pour la jeunesse, c'est la dystopie. C'est-à-dire donc des sociétés qui vont mal, mais des sociétés assez proches des nôtres. Et là, donc du coup, effectivement, ça fait barrage, parce que lorsque l'on en achète, tous les éditeurs achètent 20 ou 30 titres d'un même thème, ça fait absolument barrage aux autres, et effectivement, le Space Up ne fait absolument pas partie en ce moment de la jeunesse. Il faut vraiment que ce soit sociétal. Donc, au contraire, exactement.
Et ce qui est très drôle, c'est que justement, on regarde les deux auteurs qui ont été le plus primés dans l'histoire de la littérature de science-fiction, c'est Paolo Bacigalupi et Chay Manieri, et c'est la même année. Là, ça devient absolument amusant, donc c'était il y a 2 ans, si je ne m'abuse, hein, 2010. La même année, donc on a Bacigalupi qui fait vraiment de la dystopie anticipative, etc. Et on a d'autre côté Chay Manieri qui fait un bouquin, alors c'est un ovni. Comme genre littéraire, vous ne connaissez pas l'OVNI. Hein. Un OVNI, alors, un objet littéraire non identifié, totalement, on est plus proche des utopies philosophiques que de plein d'autres choses. Et les deux bouquins se ramassent à eux deux, je ne sais plus, 21 prix anglo-saxons. Waouh ! On se dit, tiens, tout à coup, tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Il est vrai que quand on fait son marché à Francfort ou à Bologne, on achète moins en France. Ça, c'est aussi un reproche que j'ai à adresser à nos amis éditeurs qui ne sont pas là, bien sûr, ce soir. Cet après-midi, pardon, mais c'est parce qu'ils arriveront demain. C'est vrai que quand on achète d'excellents ouvrages à l'étranger, on a moins de raison de regarder la production française.
Et bon, ça s'explique aussi très très bien actuellement dans leur domaine économique. Hein, pourquoi ils achètent à l'étranger? C'est que tout simplement, lorsqu'on externalise le livre. C'est-à-dire qu'on l'achète à l'étranger, on n'a pas à gérer un auteur. Un auteur, souvent c'est chiant, surtout un auteur français. Ensuite, on externalise la littérature, la traduction. C'est des gens qui sont en freelance qui font ça. Des correcteurs aussi, et ça part directement à l'imprimerie. Or, s'il fallait, puisqu'ils publient quand même des gros volumes par année, 50, 100 titres pour certains grands éditeurs, s'il fallait que ça soit uniquement de la production française, il faudrait qu'ils quadruplent leur personnel éditorial. Or, maintenant, minimum de charges, donc on externalise, donc on achète à l'étranger. Moi, je suis pour absolument qu'on achète à l'étranger les magnifiques textes qui publient, mais le problème, c'est qu'il y a toute une autre frange qui pourrait être tout à fait des livres moyens, qui pourraient être faits par des auteurs français moyens, s'il faut, moi compris, et qui, à ce moment-là, ces gens-là pourraient vivre de leur plume, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Alors, face à cette situation, n'est-ce pas difficile de continuer à écrire? Est-ce que comment peut-on avoir envie d'écrire encore aujourd'hui? Ça paraît délicat.
Non, il n'y a pas. C'est pas une histoire. C'est une histoire d'inventer. On a toujours envie d'inventer des histoires. Faisons un peu de prospective. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus du numérique. Il y aura quand même besoin de créateurs d'histoires. La seule différence, c'est que peut-être ce créateur d'histoire ne sera plus seul comme il l'est actuellement. Nous, on l'est face à l'ordinateur. C'est un travail solitaire. Même lorsque j'écris, moi, avec d'autres personnes, j'écris tout seul. On habite à 400 km l'un de l'autre. L'écriture, c'est un moment de solitude. Là, je pense qu'après, avec le numérique, surtout si les textes sont enrichis par un petit peu d'animation, du son, des choses comme ça, l'auteur sera qu'un composant de toute une équipe. Exactement comme le scénariste est composant de toute une équipe pour faire un film. Voilà, je pense que la technologie numérique va faire perdre cette petite singularité de l'auteur qui faisait sa tambouille tout seul et qui apportait des plats et là les gens venaient l'écouter. Non, ça sera plus comme ça. Il y aura des gens avec lui dans la cuisine maintenant.
Vous êtes d'accord avec cette idée, Olivier de Paris? Vous avez fait des études cinématographiques.
On s'approche un peu de l'unicité de ton, en fait, en allant justement dans le même sens. Moi, j'ai l'impression que les éditeurs attendent vraiment un style très particulier des auteurs, enfin un style formaté. Moi, j'ai une directrice de collection qui a lu un de mes manuscrits, et qui, donc c'est un manuscrit qui avait été d'abord accepté par un éditeur, cet éditeur s'est fait racheter, donc m'a renvoyé vers un autre éditeur. Et donc cette directrice de collection m'a parlé exclusivement pendant une demi-heure du nombre de participants présents qu'il y avait dans mon texte. Elle m'a parlé de statistiques, en fait. Et donc au bout d'une demi-heure, je lui ai demandé, mais les idées, le scénario, l'histoire, moi ce qui m'intéresse, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, bah, j'ai juste lu en diagonale. Donc voilà où on en est aujourd'hui, je pense, au niveau de la littérature française, enfin française, je ne sais pas dans les autres pays, mais en tout cas en France, moi c'est comme ça que moi je l'ai vécu de l'intérieur. Ça me semble un monde quand même qui est très opaque et qui est très, tellement centré sur lui-même qu'il est complètement fermé à la notion, enfin à des auteurs en tout cas tels que moi. Parce que c'est vrai que moi, en fait, le style, c'est vraiment mon... si j'ai un défaut quelque part, bah, je pense que véritablement c'est mon style qui est beaucoup plus pauvre que certains qui peuvent avoir un style extrêmement riche. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les idées, c'est toujours l'engagement, c'est ce genre de choses. D'où, voilà, quand je parlais d'Ayerdal, c'est pas en vain, quoi. C'est vraiment... moi, c'est ce que je cherche quand je lis de la science-fiction. Je cherche des idées, je cherche une exploration de l'âme humaine, je cherche... bon, ça a été tellement bien dit par Ayerdal que je ne vais pas répéter son propos. Mais moi, je ne cherche pas un style. Je me fous complètement de la façon dont on raconte les histoires. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Et pour en avoir parlé avec plusieurs directrices de collection, je ne suis peut-être pas le seul aujourd'hui à avoir cette idée-là. Mais moi, la science-fiction dans les années 90 m'a emmerdé à un point pas possible. Et d'ailleurs, j'avoue que je n'ai pas lu le roman d'Ayerdal parce qu'il a eu ce fameux prix. Et que pour moi, tout ce qui était primé à l'époque, c'était clair, ça m'emmerdait, mais à un point phénoménal. Donc je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir lu à l'époque, parce que ça m'aurait peut-être donné un nouvel élan. Mais voilà, quoi.
Vous avez remarqué, Olivier dit bonjour, toute la faute vient aux directrices. Hein, il y a très peu de directeurs, finalement. Donc voilà, c'est plutôt...
Oui, non, mais ça, c'est une expérience.
Non, je blague, mais c'est vrai que, par exemple, en jeunesse, ce problème-là est évident. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est... Un travail à 90% féminin. Et là aussi, le choix de texte sont influencés par ça.
Mais effectivement, travailler à plusieurs, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que ça sera vraiment l'avenir de la littérature. Et la littérature gagnera probablement. Parce qu'il y a énormément d'histoires qui sont très bien écrites, mais quand on arrive au bout, je pense surtout à la fantasy où c'est pas possible. Il y a un moment où on tourne en rond. Et moi, suivre des adolescents qui marchent et qui rencontrent un peuple et qui marchent et qui rencontrent un autre peuple, bon, on fait ça une fois, deux fois, et voilà. Donc ça serait bien que derrière, il y ait quand même des vrais scénaristes qui travaillent un petit peu en fond.
Moi, ce qui me frappe sous la bulle du livre, là, c'est le nombre de petits éditeurs qui apparaissent, qui sont nouveaux. Il n'y a pas que des grands éditeurs, donc il y a aussi maintenant, me semble-t-il, des opportunités pour des jeunes auteurs, par exemple, de publier ce qu'ils ont envie, peut-être, pas d'être soumis à ces grandes lignes éditoriales.
Tout à fait. Quand les grands groupes éditoriaux ont largué la science-fiction parce qu'elle n'était plus rentable, ils ont ouvert la porte à tout un tas de petits éditeurs. Mais il a fallu quelques années pour que ça se mette en place. Et ce sont ces petits éditeurs, j'ai pas le mot, ces éditeurs indépendants de tout système capitaliste, surtout, qui ont permis à des auteurs, de nouveau, de pouvoir écrire de la science-fiction, de pouvoir écrire d'une manière générale des littératures de l'imaginaire. Et puis voilà, ça redémarre petit à petit. Moralité, ben, les gros éditeurs recommencent à s'intéresser au genre aussi, parce que de nouveau, ben, on s'aperçoit bien qu'il devient, à défaut d'être rentable à 15 ou 16%, il est toujours rentable entre 8 et 10, ce qui est relativement pas mal. On lâche un petit peu l'aspect financier, mais surtout, ça va redorer le blason. Il y a plein de gros groupes aujourd'hui qui sont en recherche de notabilité. Je vais essayer de ne pas les citer, ça ne va pas être facile. Mais vous n'entendrez rien, bien sûr, si je prononce des mots comme Albin Michel, Bragelonne, etc. Voilà. grosse Bertha, on publie quelques bons textes, mais on publie surtout des choses, bah, c'est toujours pareil. Et on se fait accuser d'ailleurs systématiquement par les chroniqueurs de faire du bouquin facile, du prédigéré, comme tu parlais de...
Dystopie avec...
Voilà, je pense... Bon, mais pendant ce temps-là, il y a, je ne sais pas combien il y a de maisons d'édition indépendantes qui publient des littératures de l'imaginaire en ce moment, mais on est en tout cas au record absolu de toute l'histoire de la science-fiction. Enfin, je dis science-fiction parce qu'à l'origine, avant qu'apparaisse le reste des littératures de l'imaginaire, c'était de la science-fiction la première chose. Donc voilà, il y a un fort espoir, il y a un autre espoir qui est très fort. On va se mettre à rêver bientôt de choses qui concernent davantage la science-fiction que les domaines de la fantasy ou du fantastique. On va se mettre à rêver de ces planètes qui tournent autour des étoiles qu'on est en train de découvrir un peu partout. Il va y avoir de nouveau un élan, un attrait vers l'inconnu que la science va permettre. Je ne sais pas si ma phrase était très française, mais vous l'avez compris. Je vais à Bruxelles, hein, ça explique certaines erreurs. Non, les Bruxellois parlent beaucoup mieux que nous, heureusement. Donc, il va y avoir un redémarrage de la SF de toute façon, parce qu'il va y avoir un redémarrage de cette envie de découvrir des ailleurs, d'aller construire des mondes autrement. Voilà, c'est ce qui nous a motivés dans les années 60, 70. Il
faut le bordel ailleurs, quoi.
C'est bien pour ça qu'on écrit des bouquins de SF qui parfois sont un peu engagés. C'est-à-dire que quand on se déplace, nous, en tant qu'être humain, quelle est la première chose qu'on fait? C'est amener toutes nos saloperies, quoi. Il y a même des auteurs qui ont parfois été très très méchants avec l'humanité. Je tirais les noms.
Alain Grousset va devoir bientôt nous quitter pour participer à une autre table ronde. Ah non, une animation dans les collèges. Est-ce que dans le public, il y aurait des questions? Peut-être une question qu'on pourrait poser à Alain Grousset dans les 5 minutes qui restent?
Merci.
Ça n'est pas le cas. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos auteurs présents?
Est-ce que hors public?
Question ou réflexion?
Ou réflexion? Non, ça ne semble pas être le cas. Alors.
Vous avez vu comment on est tragué finalement?
Oui, alors, moi, la question que je voudrais poser, quels sont vos projets, Alain? Les derniers livres publiés sont ici, si je ne fais erreur.
Oui, c'est celui-ci.
C'est celui-ci, c'est donc. Sens interdit, avec Daniel Martinigol.
Daniel Martinigol, c'est une uchronie où l'humanité a son odorat altéré et personne ne sent la même chose. Donc il y a des gens qui sentent de minéral, d'autres végétal, d'autres animal. Donc ça pose des petits problèmes dans les restaurants. Alors les gens ont des chats goûteurs parce que lorsqu'on a l'odorat altéré, on ne sent pas s'il a bien dépourvu ou pas. Surtout si on a un odorant végétal, voilà, donc ça amène une société. Voilà, on s'est amusé là-dessus, de faire une uchronie non pas historique, mais une déviation, un point de divergence qui soit physique.
C'est destiné à la jeunesse?
Oui, oui.
Et puis alors, Olivier, alors une suite à Mainmise sur Jacobard?
Je commence à y réfléchir un petit peu vu qu'on me pose quand même assez souvent la question, mais j'attends l'idée qui vraiment donnera de l'intérêt à la suite. Pour l'instant, je travaille plutôt sur un autre space opéra. C'est une idée que j'ai eue il y a longtemps, que j'avais déjà commencé à travailler, que j'avais mise de côté parce que je ne pensais pas que ça pouvait intéresser des éditeurs. Et voilà, je me suis remis à travailler cette histoire-là déjà.
Et puis à Yordal, Donc, ici nous avons Transparence, ils n'ont pas miré sur Jean, c'est puis l'Histrion qui est là. Le dernier livre publié, c'est lequel?
J'en sais rien, en fait, c'est passé tout ça. Moi, j'ai beaucoup d'avance sur vous, parce que vous ne savez pas, j'ai un bouquin qui est fini depuis novembre. Donc, il devrait être publié en novembre, vous ne le savez pas, moi je le sais. Donc, ça c'est bien, mais pour moi déjà, il est oublié celui-là, je suis sur un autre depuis, et qui sera publié probablement. L'année prochaine, voilà, forcément. Donc, la dernière écriture, c'était Résurgence, donc il y a eu, c'était après Transparence. qu'il y a eu des choses nouvelles depuis? Non, il y a ce que je fais. Mais j'ai... Enfin, c'est pas de la SF, les deux bouquins, c'est même pas de, des littératures d'imaginaire. Les deux que je viens de... Enfin, celui que j'ai, qui est bouclé, qui sera publié sous peu, c'est pas de la littérature d'imaginaire. Le suivant, ce n'est pas de la littérature d'imaginaire. Et le suivant... allez, enfin, je vais peut-être refaire un tour un petit peu dans, dans d'autres domaines qui sont plus proches des imaginales que du Salon du Polar de Trifouilly-les-Oies, qui est très très sympa. À Trifouilly, il faut savoir qu'il n'y a qu'un hôtel. Enfin non, bref. Mais je vais y revenir parce que la science-fiction, c'est que du bonheur. Et pour la première fois de ma vie, j'ai envie d'écrire, ça fait quelques années, hein, mais j'ai envie d'écrire une utopie, une vraie, qui s'invite bien. Mais un truc, c'est vachement... J'ai déjà fait une utopie, c'était Chronique d'un rêve enclavé. Le carnage à la fin. Je compte pas les morts parce que je parle par dizaines de milliers, ça va beaucoup plus vite. Quoi. Donc voilà, donc je vais revenir à l'anticipation en tout cas, à la spéculative fiction par l'intermédiaire d'une utopie qui sera l'homme politique auquel vous avez échappé, puisque je ne sais pas parler, c'est écrire malheureusement, ça vous y couperait pas. Et voilà, c'est le gros projet. Avant ça, si j'écris du thriller, c'est essentiellement parce qu'il est plus facile parfois de raconter certaines choses en termes de contemporanéité. Et puis, pour être tout à fait franc, parce que je vends 2,5 fois plus de thriller que vous laissez.
Merci. Est-ce que je repose la question encore une fois? Est-ce que dans le public, il y aurait une question à poser à nos auteurs? Oui. Est-ce que vous en avez fait votre métier?
Pour moi, la question ne se pose pas trop pour l'instant. Hein. C'est mon premier roman publié, donc j'ai encore un petit peu de temps. Pour l'instant, je me consacre à l'écriture, en tout cas. Donc, je m'investis, on va dire. Mais je ne peux pas dire encore que c'est mon métier, dans le sens où je suis très, très mal gagné ma vie avec. Voilà. Par contre, pour Ayerdal, je pense que c'est un petit peu différent.
Ah oui, moi, je... C'est mon métier depuis... je voudrais pas me vieillir, mais ça fait quand même vachement longtemps, quoi. Plus de 2 décennies, en tout cas. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance. La sauce a pris tout de suite et ça s'est bien passé. Je vais vous donner des chiffres. Il y a grosso modo 55 000 auteurs en France, en comptant les ayants droit. Il y a 28 000 auteurs qui publient régulièrement un bouquin, c'est-à-dire grosso modo un titre tous les 2 ans maximum, mais plutôt un titre par an. Il y a 1500 auteurs qui vivent de l'écriture entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ont pas d'autres revenus. Le revenu moyen de ces auteurs-là est d'environ 800 euros par mois, donc vous voyez à quel point c'est très difficile. Il n'y a grosso modo qu'une centaine d'auteurs qu'on peut qualifier de nantis. Ouais. Et moi, il y a eu des périodes où j'étais dans les nantis, et là, en ce moment, je suis dans les deux. Je fais la quête à la fin. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire dans notre métier, parce que c'est vraiment un métier écrire, même quand on a une autre activité professionnelle à côté, en général pour des raisons financières d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que... On peut avoir des périodes très difficiles, puis des périodes qui sont waouh, tout va bien, et puis pouf, on croit que c'est tout est gagné, et puis on se plante sur un bouquin, puis sur un deuxième, et puis hop, c'est reparti en plongeon. Je dis c'est extraordinaire parce qu'il faut quand même à un moment donné sourire de tout ça et dire la SF c'est que du bonheur. Ça serait peut-être très difficile de vivre comme fonctionnaire, parce que je ne pense pas qu'on puisse fonctionnariser réellement les statuts créatifs. Les statuts, je parle comme un écrivain, moi. Les métiers créatifs, mais ça serait peut-être bien qu'on songe un jour à aider, avant d'aider les éditeurs, les libraires, les diffuseurs, et qu'on songe aussi à aider les créateurs qui font vivre à eux tout seuls 85 000 personnes. C'est-à-dire que les 1500 qui gagnent des sous, là, c'est-à-dire peu de sous, hein, 800 euros par mois, je vous ai dit en moyenne, les 1500 font vivre plus de 80 000 personnes dans les métiers attachés aux livres. Donc les maisons d'édition, les libraires, les diffuseurs, les imprimeurs, etc. Et il y a un truc qui ne va pas parce que les autres, ils sont salariés, nous, pas vraiment. Voilà. Alors ça, c'est mon côté militant, mais c'est que le début. J'en remettrai une couche la prochaine fois que j'aurai l'occasion.
Merci. Alors, merci à nos auteurs, Alain Grousset, Ayerdal et Olivier de Paris. Je crois que si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons... arrêter cette table ronde ici. Merci de votre participation.
Merci.
Salut.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est une flatte, là.